بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله عز وجل nous a pourvu d'un grand bienfait dans notre cœur. Il s'agit d'un membre qui est capable du pire et du meilleur. Un membre qui nous est nécessaire dans notre vie. Il permet la mastication, la déglutition, la dégustation et surtout la parole. Il s'agit de la langue. Un organe extraordinaire, un miracle de Dieu, mais un outil extrêmement dangereux lorsqu'on ne le maîtrise pas. C'est comme un lion qui est dans notre cage buccale. Tant qu'il est sous les barreaux, derrière nos dents, les gens sont à l'abri. Et nous sommes à l'abri de notre langue. Mais dès que la cage s'ouvre, la langue est mise en liberté. Si son compagnon ne l'a pas dressée, ne l'a pas domestiquée, cette fauve va être à l'origine de sa perte et à l'origine de grands problèmes dans la société. Et souvent, on ne donne pas d'importance à nos mots, aux conséquences de nos paroles. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le serviteur prononce une parole sans y prendre garde, qui va lui attirer l'agrément de Dieu, grâce à laquelle Dieu va élever ses degrés au paradis. Et il va tenir des propos sans y prendre garde, sans leur donner de valeur, qui vont lui encourir la colère de Dieu et qui vont le précipiter en enfer. Le prophète nous dit également, lorsqu'il a été un jour interrogé par un compagnon, quel est le meilleur musulman ? Il a dit, c'est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, également, rapporte dans un hadith que chaque matin, le fils d'Adam se lève et tous ses membres dans son corps blâment la langue. Il s'adresse en ces termes à la langue en lui disant « Crains Dieu et préserve-nous. » Car si tu te tiens droite, nous serons droits également. Mais si tu dévies, nous allons tous dévier. Effectivement, la langue peut nous élever au paradis et peut nous précipiter en enfer. Vous savez que l'honneur du croyant est sacré en islam. Et Hassan al-Basri nous dit que les trois grands péchés de la langue, il dit, c'est le fait de parler sur le dos des gens. Et le fait de parler sur le dos des gens peut prendre trois formes. Chacune d'elles est pire que l'autre. Il dit, premièrement, la calomnie. Deuxièmement, al-riba, la calomnie. Al-buhtan, c'est le fait d'inventer, le mensonge. Troisièmement, le colportage. Et ensuite, il explique chaque vice et il dit « L'riba, la calomnie, c'est le fait de dévoiler les défauts de ton frère en son absence. Le mensonge, c'est le fait d'inventer quelque chose sur ton frère, de mentir sur lui. Et le colportage, c'est le fait de te faire le relais de toutes les informations qui te parviennent. » C'est le téléphone arabe. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce dernier péché qui crée des grands problèmes dans nos sociétés, c'est le colportage ou le téléphone arabe. Le fait de répéter bêtement et naïvement tout ce qui nous parvient comme information, que ça soit des médias ou que ça soit des gens. Ou que ça soit des gens. Notamment quand ça touche l'honneur des gens, leur réputation. Allah Azza wa Jal, dans un verset, nous impose de mettre fin au colportage. Il nous dit, ô vous qui portez la foi, les véritables croyants, ceux qui croient en Dieu et aux anges, notamment ceux qui sont à notre droite et à notre gauche, ceux qui enregistrent nos bonnes actions et nos mauvaises actions. Ô vous qui portez la foi réellement, si une personne mauvaise, une personne dont la moralité et l'intégrité vous paraît douteuse, une personne qui n'est pas fiable, vous rapporte une information, une nouvelle, alors dit Allah Azza wa Jal, vous devez en vérifier la teneur. Vous devez être critique. Vous devez vérifier l'authenticité de quoi ? De cette information qui vous est parvenue. Vous n'avez pas le droit de la colporter sans avoir fait preuve de précaution et avoir vérifié cette information. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi la fin du verset, pourquoi adopter cette rigueur dans le traitement des informations qui nous parviennent, car Allah Azza wa Jalla dit à la fin du verset, car vous allez faire du mal à certaines personnes sans y prendre garde, par ignorance, chose que vous allez ensuite regretter. Si on se fait le relais de toutes les informations qui nous parviennent, on les répète bêtement, un jour ou l'autre on va transmettre un mensonge, une rumeur, une fausse accusation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il suffit comme mensonge de répéter tout ce qu'on entend. Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Il y a 4 situations. Chacune des situations nous impose un comportement. Une personne douteuse qui vous rapporte une information sans preuve. Là, il faut être catégorique. L'information doit être rejetée et surtout pas colportée, relayée. Une personne dont vous doutez de la moralité, une personne qui n'est pas de confiance, qui vous importe une information qui est elle-même douteuse, qui n'est pas fondée. Deuxième cas de figure, une personne douteuse qui vous apporte une information mais avec une preuve. Par précaution, le croyant ne doit pas relayer l'information. Parce que s'il a une preuve, peut-être qu'elle est falsifiée puisque je doute de la personne. Troisième cas de figure, une information venant d'une personne de confiance. Et cette information est fiable. Excusez-moi. Avant, ça c'est le dernier cas. On a dit troisième cas, une personne de confiance, fiable, qui apporte une information, mais sans preuve. On peut le croire, puisque c'est quelqu'un de confiance, mais pour transmettre l'information, on doit d'abord la vérifier, avoir des preuves. On peut la croire, la personne, puisque c'est une personne de confiance, mais puisqu'elle n'a pas de preuves, je ne transmets pas l'information, par précaution. Quatrième cas de figure, une personne de confiance qui, cette fois-ci, apporte une information authentique, une information prouvée. Une personne qui vient vous dire, un tel... Une personne a un défaut. Une personne qui vient vous dire qu'un tel a tel défaut. Et il vous dit, j'en suis témoin, je l'ai vu faire, je l'ai entendu dire, j'étais témoin de la scène. Donc c'est quelqu'un de confiance et il a une preuve, c'est qu'il était témoin de la scène. C'est pas quelqu'un qui a relayé une information, qui l'a colportée. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose, il vous le rapporte, vous pouvez croire la personne. Et là, l'islam nous dit que tu ne peux transmettre ce défaut, cette information, qui va peut-être créer de la zizanie, qui va peut-être créer des problèmes, tu ne peux la transmettre, la relayer, la colporter qu'en cas de besoin et en cas de nécessité. On prend quelques exemples de la sunna du prophète. Une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, deux personnes m'ont demandé ma main. Muawiya ibn Abi Sufyan et Abu Jahm. Deux personnes, deux compagnons. Le prophète est interrogé. Et là, elle lui demande conseil. Puis-je me marier avec eux ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, le prophète va révéler deux défauts. Le premier, c'est celui qui concerne Muawiya. Il dit, c'est quelqu'un de fauché, qui n'a pas d'argent. Donc je ne te conseille pas de te marier avec. Abu Jahm, le prophète dit, c'est quelqu'un qui est violent avec les femmes. Je ne te conseille pas de te marier avec. Donc le prophète, il s'est permis de relayer une information dont il est sûr de l'authenticité, car le prophète ne ment pas, et il est au courant, mais dans un cas précis, à une personne précise. C'est pas devant tout le monde, au grand public. Non, une personne, elle a besoin d'entendre de moi que je révèle le défaut d'une personne parce qu'elle va se marier avec, je peux. Ou bien une personne qui va vous demander conseil sur un tel, je veux lui prêter de l'argent. Je veux engager une transaction économique, créer une société avec. Tu as une expérience avec, qu'est-ce que tu en penses? Conseille-moi, tu as le droit. C'est un conseil, c'est une mise en garde, un avertissement, c'est réduit aux besoins et à la personne qui vient vous interroger. Même chose, un jour, la femme de Abu Sufyan, Hind, est venue voir le prophète et lui a dit, « Ô prophète, mon mari est avare. » Elle révèle un défaut de son mari. Pourquoi? Parce que là, elle demande une fatwa. Ai-je le droit de prendre en cachette un peu de son argent? Le prophète lui dit, « Oui, mais tu ne prends que ce dont tu as besoin. » Donc elle révèle un défaut de son mari en présence du prophète et le prophète accepte. Hein, il lui dit pas pourquoi est-ce que tu m'as révélé un défaut puisque c'est réduit aux besoins et c'est un cas de nécessité. Quatre cas de figure, une personne douteuse sans preuve à rejeter catégoriquement. Une personne douteuse qui a une preuve, là également, on ne relaye pas l'information car s'il a une preuve, peut-être qu'elle est falsifiée puisqu'on n'a pas confiance en la personne. Troisième cas de figure, une personne de confiance mais qui n'a pas de preuve. Par précaution, je ne relaie pas l'information, je peux le croire, mais je ne relaie pas l'information parce que je n'ai pas de preuve. Quatrième cas de figure, une personne de confiance qui a une preuve, tu peux relayer l'information mais c'est réduit aux besoins. Tout ça pourquoi? Pourquoi autant de restrictions, autant de rigueur? Car comme l'a dit le prophète, le musulman est le frère du musulman. Tout est sacré en lui. Son argent est sacré, sa vie est sacrée et son honneur est sacré. Avant de clôturer par les invocations, deux informations. Le samedi 6 octobre, l'intervention ici même à la mosquée sera tenue par notre frère Hani Ramadan, hafizahullah. Pas ce week-end, pas ce dimanche, mais le suivant, il y aura une journée porte ouverte à la mosquée. Faites passer l'information, surtout aux non-musulmans, afin qu'ils viennent découvrir ce qu'est l'islam et qu'ils entendent l'islam de ces fidèles hein, de la mosquée. Donc ce sera une journée porte ouverte où on va accueillir des gens, musulmans et non-musulmans, afin de leur montrer le vrai image de l'islam et afin de les rassurer. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما ربونا صغيرا اللهم ارحم أموات المسلمين جميعا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك ومرافقته في الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد اللهم أصلح أنفسنا وأصلح لنا أزواجنا وأصلح لنا ذريتنا واجعلنا قدوة لغيرنا اللهم استخدمنا لنصرة دينك وسخرنا لطاعتك اللهم اجعل أيدينا منفقة في سبيلك وأرجلنا ساعية إلى مساجدك وقلوبنا متوكلة عليك اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أعنا على تربية أنفسنا وعلى إمساك ألسنتنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة